Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, aux vieilles pierres, la patrie reconnaissante. Bonjour Nicolas Offenstadt.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vos thèmes de recherche portent sur l'espace public au Moyen-Âge et les mémoires de la Grande Guerre. Votre dernier ouvrage a été publié fin 2018 chez Stock, Le pays disparu sur les traces de la RDA. Alors cette soirée devait marquer l'amorce de la deuxième partie du quinquennat, sa relance après les gilets jaunes et le grand débat. Mais Emmanuel Macron n'a pas eu l'occasion d'en fixer publiquement les orientations, contraint de s'incliner face à plus grand que lui, Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas seulement une église qui a pris feu lundi sur l'île de la Cité, pas même une cathédrale. C'est un symbole national, religieux et républicain, à en juger par l'unanimité des réactions de la classe politique. Campagne des européennes suspendue, moment d'unité nationale et de quasi-recueillement pour commémorer la disparition d'un monument. Un monument qui, comme d'autres, raconte une partie de l'histoire politique du pays. Versailles, le Louvre, les Invalides, le Panthéon, mais aussi les monuments aux morts sont les traces d'un passé qui participe à la définition de l'identité de la France, des traces souvent exploitées par les politiques pour les mettre à leur service. Alors aux vieilles pierres, la patrie reconnaissante, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Nicolas Offenstadt. Cet incendie de la cathédrale Notre-Dame, elle interpelle surtout l'historien du Moyen-Âge que vous êtes ou celui de la Première Guerre mondiale?
À vrai dire, les deux, parce qu'évidemment, les cathédrales gothiques en général sont évidemment quelque chose de très important pour l'histoire du Moyen-Âge, et d'ailleurs pas seulement sur le plan architectural, hein, ça s'insère évidemment dans un monde religieux, dans un monde social, c'est lié aux constructions et aux stratégies de l'Église, donc évidemment les cathédrales c'est toute une histoire du Moyen-Âge, non seulement la pierre, mais aussi les enjeux sociaux, les réseaux paroissiaux, et le pouvoir de l'Église dans la ville, le lien entre la ville et l'Église, donc ça évidemment c'est une question de médiévisme, mais c'est aussi même une question de la pensée. Vous savez, il y a le grand historien Erwin Panofsky avait montré le lien entre la pensée scolastique et la construction des cathédrales gothiques. Donc c'est aussi toute la pensée médiévale qui s'est en partie incarnée dans ces cathédrales gothiques. Donc il y a cet aspect-là.
Et pour la Première Guerre mondiale.
Et bien sûr, c'est aussi pour la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a eu un certain nombre de cérémonies liées à la fin de la guerre et à sa mémoire aussi qui ont lieu en partie à Notre-Dame. C'est notamment un moment très important de la mémoire de la Grande Guerre, qui est la mort du maréchal Foch, avec un passage à Notre-Dame en 1929. Et là, on est évidemment aussi dans la construction d'une mémoire nationale autour de la Grande Guerre. Donc évidemment, c'est une église qui est une église à comprendre dans le temps long, pas seulement sa construction médiévale, mais évidemment jusqu'aux mémoires contemporaines.
Alors une église qui est évidemment très importante pour les catholiques, mais pas seulement. Écoutez ce qu'en disait lundi soir sur son blog Jean-Luc Mélenchon.
Au fil des âges et du temps, Notre-Dame, en plein milieu de Paris, a symbolisé l'esprit de Paris et par-delà de la France elle-même. Notre-Dame, c'est le droit d'asile, qui s'y réfugiait était sauf, et c'était une invention admirable. Notre-Dame, c'était le lieu où les Français se retrouvaient et se sont retrouvés en toutes circonstances, quelle que soit leur foi. On pense évidemment à ces moments en particulier, notamment celui de la libération du pays, et de Paris, qui s'est célébré dans la nef. Et puis, on pense aussi à tout ce qu'elle a pu suggérer à l'imagination et à la créativité. On imagine cette cour des miracles décrite par Victor Hugo, et puis ensuite, le livre lui-même, Notre-Dame, qui est un chef-d'œuvre de la littérature, et qui rend un hommage si clair, si simple, si net à l'esprit humain s'exaltant dans l'architecture, comme sa façon à lui de reconstruire le monde et le donner à voir en image. Notre-Dame est un immense récit sur toutes ses façades, sur toute sa construction.
Nicolas Offenstadt, ce que dit Jean-Luc Mélenchon de Notre-Dame de Paris, ça résume bien à la fois la portée et la diversité symbolique de ce que représente cet édifice, dont je dois dire que moi, j'imaginais pas qu'il puisse provoquer autant de réactions et de réactions unanimes du côté des politiques. Pas seulement des politiques, bien sûr, mais notamment des politiques.
Oui, ce qui est intéressant dans la réaction de Mélenchon, d'ailleurs d'une certaine manière en parallèle avec celle de Macron, c'est d'une certaine manière, quand vous prétendez au premier rôle politique, il faut vous inscrire dans la continuité. C'est ça qui me frappe, c'est-à-dire c'est l'idée de dire que celui qui aspire soit à la magistrature suprême, la présidence de la République, soit qu'il l'est, c'est quelqu'un qui doit assurer la continuité de la nation. Et la continuité de la nation, ça demande évidemment de s'élever au-delà des points de vue trop partisans en apparence, ça, au-delà des clivages. Et donc cette idée de se construire en fait dans la continuité du Moyen-Âge ici, c'est quelque chose de tout à fait naturel pour Jean-Luc Mélenchon. D'autant qu'on peut regarder que chez lui, il y a eu cette volonté déjà très marquée de reconstruire une forme de roman national de gauche, en quelque sorte. On connaît le roman national, c'est-à-dire cette histoire valorisante de la nation qui met en avant ses réussites, qui met en avant ses constructions, qui plutôt tendance à cacher ses pages sombres, hein. Et on dit roman parce qu'il y a une forme évidemment d'écriture un peu fictionnelle, hein, une forme de nation qui avance toujours vers le bien, vers le plus grand, en emmenant tous ses enfants. Et il y a une version qui est très identitaire, très marquée à droite, hein, qui va souligner plutôt évidemment les victoires militaires, qui va souligner la dimension catholique, la dimension conservatrice, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, il y a cette dimension chez lui qui avait été très marquée déjà pendant la campagne. Vous vous rappelez les usages sans fin de la Révolution française, hein. Donc mettre en avant une forme d'histoire de gauche, et d'ailleurs il le fait encore un petit peu à sa manière, en soulignant la Cour des Miracles, l'asile, etc. C'est un peu un pendant, hein, au discours identitaire, ce forme de roman national de gauche, qui doit, pour exister d'une certaine manière, s'ancrer aussi dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un roman national de gauche, il suffit pas de commencer au mouvement ouvrier au 19e siècle, il faut être capable, hein, de l'inscrire dans le temps long. Vous savez, c'était déjà le cas dans les écrits d'Engels et ensuite de tout le monde socialiste et communiste. Par exemple, on regardait les révoltes médiévales comme finalement, en quelque sorte, l'ancêtre, hein, de ce qu'a été les révolutions du 19e siècle, du 18e ou du 19e siècle. Donc en ce sens, c'est très classique, hein, de mettre une continuité qui soit un peu orientée dans le discours.
Est-ce que vous voyez, Nicolas Hoffenstadt, un autre monument susceptible d'incarner ce syncrétisme qu'on voit à l'œuvre à travers la symbolique de Notre-Dame de Paris, ou bien est-ce que c'était vraiment celui-là qui réunit finalement toute la capacité à faire se rejoindre et cette tradition catholique, une tradition plus révolutionnaire, disons?
Vous avez dit tout à l'heure, j'ai été un peu surpris de cette unanimité. On peut l'être effectivement. Ce qui me paraît intéressant...
Moi, j'aurais dit la Tour Eiffel. Je pensais que la Tour Eiffel, par exemple, incarnait davantage peut-être cette une certaine idée de la France, au moins en tout cas à l'étranger, et un symbole aussi du génie français, de l'unité retrouvée, enfin de tout un tas de choses.
Alors, il faudrait voir, parce que c'est la destruction ici qui provoque évidemment cette unité. Donc, évidemment, on va pas faire ici de l'histoire-fiction, mais si ça avait été la destruction même d'un palais, d'un ancien palais royal, que ce soit à Versailles ou le Louvre, sans doute les réactions étaient aussi très fortes. Ça aurait été évidemment aussi des lieux plus tristes, hein, qu'on pense à la Première Guerre mondiale, Verdun ou à la Seconde Oradour. Je pense que c'est des lieux qui ont quand même une vocation à produire des discours unitaires. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une dimension qu'il faut peut-être pas manquer quand vous soulignez à juste titre cette unanimité, c'est le patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est indépendante, on pourrait dire, de la notion de symbole national, de la grandeur nationale, du roman national. C'est ce goût quand même très important, c'est un patrimoine qui disparaît. Et donc là, c'est un peu déconnecté en quelque sorte de sa symbolique religieuse ou politique. Et moi, ce qui me frappe, c'est justement, on le sait depuis longtemps, mais il y a quand même un immense intérêt en France pour le patrimoine, un intérêt passif et actif. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et il faut que cette dimension-là soit bien mise en avant. Si on est si attentif à la destruction de Notre-Dame, c'est en tant que patrimoine et pas seulement en tant que symbole national et religieux. Donc, en quelque sorte, en tant qu'héritage des siècles.
Puisque je vous le rappeliez, je le disais également au début, vous êtes historien notamment de la mémoire de la Grande Guerre, la guerre de 14-18, 1914 au mois de septembre. Il y a un bombardement sur la cathédrale de Reims, un incendie, la cathédrale est détruite. Est-ce que ça avait provoqué à cette époque-là les mêmes réactions, le même type de réaction et la même expression d'une unité nationale lorsque la cathédrale de Reims est détruite? Alors on connaît le récit qu'en a fait Albert Londres, grand journaliste, un des premiers à entrer dans la cathédrale une fois détruite.
Oui, tout à fait. Reims est évidemment ville du sacre. Un lieu extraordinairement important entre Saint-Rémy et la cathédrale. Donc c'est évidemment quelque chose qui peut s'inscrire dans ce qu'on disait de ces hauts lieux de l'histoire de France, c'est-à-dire qui portent un récit au-delà d'eux-mêmes, au-delà de ce qui s'est passé, ça va beaucoup plus loin. Et évidemment, d'autant plus que détruit par les bombardements allemands, c'était le symbole de la barbarie allemande. Donc là, il y a quand même une différence entre Reims et Notre-Dame de ce point de vue-là, c'est que là, il y avait un ennemi. C'est le cas aussi de la violence. On a parfois comparé avec la violence des attentats terroristes. C'est qu'il y a un ennemi. Là, il n'y a pas véritablement... L'ennemi est quand même très diffus. Il est matériel, c'est le feu. Il n'y a pas vraiment, pour l'instant, en tous les cas, de responsables désignés. Donc ça, je crois que c'est quand même une inflexion fondamentale dans cette unanimité. Mais évidemment, Reims a été un symbole, et un symbole très longtemps. Puisqu'ensuite, on a encore publié dans toute l'entre-deux-guerres les photos de ruines, les photos de destruction, qui permettaient de stigmatiser la barbarie allemande et qui détruisaient évidemment l'histoire de France. C'était le cas aussi en Belgique, avec l'incendie de la bibliothèque de Louvain. Donc vous voyez, il y avait tout un ensemble de hauts lieux qui ont été détruits en partie par ce qu'on appelait la barbarie allemande. Donc là, le lieu servait en quelque sorte le combat présent. ce qui est évidemment très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, c'était quand même cette notion du lieu dans l'actualité, dans la construction identitaire.
Et sont aussi des lieux de pouvoir. Nicolas Feinstadt, vous l'avez rappelé, la cathédrale de Reims, on y sacrait les rois. Notre-Dame, on y a sacré Napoléon. Il y a eu des funérailles nationales de certains présidents de la République. Le dernier en date, c'était François Mitterrand. Le fait que le politique, à un moment donné, utilise ces lieux, on va peut-être pas encore parler d'instrumentalisation, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui participe aussi de la construction d'une identité nationale?
Oui, vous vous souvenez qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait eu un grand débat sur l'identité nationale. Et un questionnaire d'orientation avait été distribué au préfet pour guider les débats. Il s'agissait de savoir qu'est-ce qui fait l'identité de la France, comment les construire. Et parmi ces questions, évidemment, c'était la cathédrale, avec un grand C. C'est pas seulement Notre-Dame de Paris, mais l'ensemble des cathédrales, et notamment des cathédrales gothiques. On pense évidemment à Amiens, à Noyon et à bien d'autres. Et donc, est-ce que la cathédrale, finalement, est au centre de l'identité? Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'évidemment, c'est pas du tout neutre, parce que ça réfère à une partie plutôt médiévale de l'histoire de France, à une partie pré-révolutionnaire, malgré tout. Et donc, du coup, cet accent mis sur la cathédrale, c'est évidemment un enjeu identitaire. Et vous savez que ça réfère aussi à un discours qui est assez intéressant, généralement, on se sert de l'historien Marc Bloch pour le justifier. C'est le discours de dire que un bon Français, un Français qui finalement s'inscrit dans l'identité de la France, il doit vibrer à la fois, en quelque sorte, à l'histoire des cathédrales gothiques, au Sacre de Reims, et aussi au moment révolutionnaire, on cite la fête de la Fédération. Cette idée qui a été prise par la droite conservatrice, par l'extrême droite, en disant, finalement, c'est le bon Français doit vibrer aussi bien à l'Ancien Régime qu'au moment révolutionnaire. Il faut bien avoir en tête que ce discours-là sur l'identité de la nation, c'est un discours politique. C'est une fabrique. Il n'y a pas de nation et d'identité nationale qui aurait ces monuments obligatoires. C'est à un moment donné, on choisit de mettre l'accent. J'ai lu récemment l'ancien conseiller du président Sarkozy qui disait « Notre-Dame, c'est le cœur de la nation ». C'est un choix. C'est un choix de mettre Notre-Dame le cœur de la nation. Je pense que quelqu'un qui aurait une tradition révolutionnaire, une tradition de gauche, n'a pas forcément cette conception-là. Certains pourraient dire, finalement, le cœur de la nation, c'est le mur des fédérés, c'est là où ont été fusillés les communards, c'est là où il y avait un élan révolutionnaire. Ce sont des choix. Il n'y a pas d'idée naturelle à ce que le Louvre ou Verdun ou le mur des fédérés soient le cœur de la nation. C'est à un moment donné, on décide de mettre l'accent. On veut faire passer, en quelque sorte, un discours politique pour une évidence historique. Et là, à mon avis, il y a quand même une véritable instrumentalisation, en tous les cas, un danger sur lequel il faut pouvoir se garder.
Certains pourraient dire, Nicolas Hoffenstedt, le cœur de la nation, c'est le Panthéon, puisque c'est ici que sont regroupés les grands hommes et les grandes femmes qui ont fait la France, en tout cas une partie de l'histoire de France. Il se trouve que le Panthéon, tiens, c'est justement une ancienne église. C'est peut-être pas tout à fait un hasard que ce lieu très politique, très républicain, soit une ancienne église.
Oui, c'est un lieu qui a été évidemment récupéré par la Révolution pour en faire ce temple des grands hommes à partir de 1791. Donc c'est effectivement un lieu qu'on pourrait tout à fait inclure dans la réflexion, d'autant qu'on va y trouver des traces des époques très différentes, puisqu'il y a eu beaucoup de panthéonisation à certaines époques, notamment à Napoléon. Puis ensuite, il y a eu des moments plus où le monument a été mis à distance. Et une renaissance du Panthéon aussi à la fin du 19e siècle. Donc c'est aussi un monument qui a connu une éclipse. Et ce qui me frappe aussi, c'est que ce monument, finalement, et ce qu'on y fait, reste extraordinairement actif et vivant. Donc c'est peut-être une différence avec un certain nombre de monuments plus figés, c'est que le Panthéon permet une actualisation permanente du souvenir de la nation. C'est-à-dire qu'en fonction de notre présent, on peut faire du Panthéon ce qu'on veut. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, d'un palais ancien, sauf à y mettre beaucoup d'art contemporain, mais c'est controversé. Le Panthéon, en quelque sorte, est une forme de mémoire toujours active. Vous avez vu récemment la panthéonisation de résistants. On a voulu insister sur le rôle des femmes, notamment avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. On a voulu aussi insister récemment avec Simone Veil sur d'autres violences du XXe siècle et aussi un certain nombre de progrès des conditions de la femme dans notre France plus contemporaine. Donc vous le voyez, ce qui est assez fascinant dans le Panthéon, c'est sa capacité d'actualisation. Ce qu'on n'a pas exactement de la même manière avec d'autres sites.
Alors, on parle beaucoup des églises que l'on trouve à Paris, Notre-Dame, le Panthéon qui en fut une. On aurait pu rajouter le Sacré-Cœur qui rappelle indirectement ce que fut la Commune de Paris. Mais ce ne sont pas les... Il n'y a pas qu'à Paris que cela se situe, cette construction d'une identité nationale à travers, en particulier, les lieux de culte. Il se trouve que lors de son itinérance mémorielle entamée début novembre, Emmanuel Macron, qui voulait commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, cette itinérance, il l'a débutée à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Écoutez ce reportage qui date du 9 novembre dernier, c'était dans le JT de 20h de TF1.
Dimanche prochain, vous le savez, nous allons commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et juste avant, Emmanuel Macron a décidé de se rendre sur les principaux champs de bataille, un programme chargé avec des étapes à Verdun, aux Éparges et bien sûr à Rotonde où a été signé l'armistice. Mais c'est à Strasbourg que cette itinérance a commencé dès ce soir. Bonsoir Amandine Atalaya. Symboliquement, le président français y a donné rendez-vous au président allemand.
Oui, bien sûr, c'est le symbole évidemment de la réconciliation franco-allemande. La dimension mémorielle pendant tout ce déplacement sera essentielle, mais il y aura aussi très nettement une coloration économique et sociale. Emmanuel Macron, en difficulté, on le sait, veut renouer, disons, avec les Français et il a conçu ce périple comme une sorte d'immersion dans les territoires.
Nicolas Offenstadt, en tant qu'historien de la Première Guerre mondiale, j'imagine que vous aviez suivi de près cette itinérance mémorielle. J'étais frappé par ce que disait cette journaliste, qu'il y avait une dimension mémorielle qui était voulue par l'Élysée, mais aussi la volonté d'évoquer les questions économiques et sociales. Ça renvoie évidemment à l'utilisation de l'histoire, de la mémoire, qui sont deux notions différentes évidemment, mais au profit de questions politiques très contemporaines.
Oui, c'est vrai que c'était très intéressant cette mise en scène en quelque sorte d'une itinérance mémorielle le long des champs de bataille. D'abord par les choix qui sont faits, il fallait s'inscrire à la fois dans la trace de ses prédécesseurs, mais aussi sans les noyer. Donc les choix ont été faits avec beaucoup de discernement. Chaque lieu aussi avait une fonction spécifique qui permettait par exemple soit d'évoquer les mémoires coloniales, soit d'évoquer les mémoires franco-allemandes. Donc c'était tout un discours sur la Grande Guerre. Et en même temps, ça faisait un peu sens d'une certaine manière. J'ai trouvé là d'évoquer les questions économiques parce que ces anciennes régions de champs de bataille sont aussi des régions qui ont été sinistrées. C'est les régions victimes. Là, il y a vraiment une congruence entre la mémoire et le contemporain. C'est-à-dire que le nord et l'est de la France sont évidemment les régions qui ont subi parmi tout. Notamment la violence des désindustrialisations, les mines, l'industrie métallurgique, le textile. Et donc, c'est des régions qui, économiquement, subissent de grosses difficultés. Alors, c'est toute l'ambiguïté de cette mémoire de 14-18 aussi sur les lieux. C'est qu'à la fois, c'est une mémoire, on pourrait dire, valorisante, parce que ça apporte tout un ensemble d'histoire nationale. Et en même temps, c'est encore ramener ces régions à la ruine, à la destruction. Donc, c'est parfois compliqué à gérer la mémoire de 14-18 sur place. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie cohérence géographique entre les difficultés présentes et la mémoire des guerres sur ces territoires. C'était donc assez cohérent, on pourrait dire, de les faire fonctionner ensemble. Ensuite, ça a plus ou moins, évidemment, ça s'est entré en collision avec des questions sociales, mais c'est, je crois, assez intéressant de ce point de vue-là.
C'est entré en collision parce qu'effectivement, ça s'est passé au tout début. Je suis même pas sûr encore que ça s'appelait déjà le mouvement des Gilets jaunes. Mais enfin, on était vraiment dans une grogne sociale et Emmanuel Macron a été confronté à un certain nombre d'interpellations dans ces domaines sociaux. C'est le risque, justement, Nicolas Offenstadt, peut-être que de vouloir trop se servir de l'histoire pour des usages politiques.
Oui, et il faut rappeler, et ça c'est quelque chose qui est parfois dur à entendre, mais que toute commémoration est au présent. Il n'y a pas de commémoration naturelle. Encore une fois, c'est toujours un choix dans le passé. Pourquoi commémorer telle bataille ou telle autre? Et d'ailleurs, les choix du président de la République ont été faits en fonction d'enjeux présents. Vous l'avez dit très bien, en fonction d'enjeux économiques. On a choisi les villes en fonction de questions territoriales, en fonction des élus, en fonction des problèmes particuliers de telle ou telle entreprise, en fonction de ce qu'avait fait, par exemple, François Hollande ou Nicolas Sarkozy dans leur discours mémoriel précédent. Donc tout ça est extrêmement présent. C'est pour ça que je vous disais la même chose. La place qu'on va donner à Notre-Dame ou aux cathédrales gothiques dans la mémoire nationale, c'est aussi évidemment des choix. Évidemment, dans les régimes communistes, par exemple, on choisissait, au contraire, de faire des églises, des choses tout à fait marginales. Le dirigeant de la RDA, puisque vous l'évoquez, Walter Ulbricht, quand ils ont construit la nouvelle ville de Eisenhüttenstadt dans les années 50, ils ont dit, ici, il y aura pas de tour, sous-entendu, il y aura pas d'église, si on construit une ville nouvelle. Donc c'est évidemment des choix politiques à un moment donné, il s'agit pas de les évaluer ou pas, mais il n'y a pas de naturalité à ce que tel ou tel monument ou événement soit mis en avant, ni de la manière dont il est mis en avant. Quand on dit c'est intéressant, c'est le cœur de la nation, c'est la France, c'est l'identité de la France, on choisit de faire un discours sur le passé qui peut se porter sur bien d'autres aspects de l'histoire de France, ou bien d'autres monuments encore, et parfois moins connus. Et donc, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est cette réinstrumentalisation aussi des cathédrales gothiques dans les luttes identitaires contemporaines. On voit bien que célébrer les cathédrales gothiques en 1970 et dans les années 2000, c'est pas du tout la même histoire.
Cette réinstrumentalisation que vous évoquez, Nicolas Offenstadt, elle vient du politique, mais elle peut venir également de la société, puisque vous évoquez la RDA. Moi, ça me fait penser que, après la chute du mur, dans un certain nombre d'anciens régimes communistes, il y a des images qui ont été très marquantes. C'est lorsque l'on déboulonne les statues des grands leaders communistes, en particulier les statues de Lénine. Est-ce qu'il y a aussi besoin, par moment, justement, de s'adresser et de se confronter directement à ces monuments qui racontent aussi une partie de l'histoire et à les faire tomber pour faire passer aussi à une autre étape de la vie politique?
Alors, comme historien, et on voit bien d'ailleurs la réaction des historiens et des médiévistes en particulier, évidemment, face à l'incendie de Notre-Dame, il y a ce sentiment que c'est une partie du passé, une partie qu'on peut montrer qui disparaît. Je vous dirais la même chose pour les destructions de statues. Moi, je suis en général partisan, j'ai vu que ça a été fait en certains endroits, plutôt de maintenir les choses, mais de les mettre dans un récit. C'est-à-dire qu'au lieu de détruire, l'entourer par d'autres récits ou par d'autres œuvres d'art qui permettent d'avoir des récits plus pondérés ou plus équilibrés. Ça a été fait, par exemple, à Hambourg, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a un monument aux morts de la guerre de 14-18 qui a été érigé par les nazis, donc dans le style nazi. On pourrait dire c'est embêtant de laisser ça au milieu d'une ville aujourd'hui. Eh ben, il a été préservé, mais on a mis d'autres monuments à côté qui symbolisent la déportation. On a raconté l'histoire de ce monument. Donc là, il n'y a pas de vandalisme. Il y a en quelque sorte la mise en scène de l'histoire. Ben, il y a eu ça, donc on va pas s'en dispenser. Ça veut pas dire qu'il faut tout garder. Mais vous voyez, moi, je trouve toujours cette histoire à plusieurs degrés passionnante. C'est-à-dire, gardons les strates, autant qu'on peut, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont forcément détruites par la violence de la guerre ou par les incendies. Mais autant que possible, gardons les strates et mettons-les en scène pour que les gens, en quelque sorte, puissent comprendre les enjeux de chacun des monuments. Et si on pouvait le faire plus souvent, plutôt que de déboulonner, c'est à mon avis la meilleure idée. Alors, soit vous le complétez par des œuvres d'art, soit vous tenez un discours critique, soit vous mettez en scène. Et il y a eu plein de propositions, par les artistes notamment, de mettre en scène des œuvres qu'on a envie de discuter, en leur laissant la possibilité de raconter autre chose que ce pourquoi on les avait érigés.
Et comment est-ce que vous interprétez en tant qu'historien, Nicolas Offenstadt, le vandalisme qui a eu lieu début décembre à l'Arc de Triomphe lors d'un des samedis de mobilisation des Gilets jaunes?
Alors d'abord, vous avez raison d'évoquer cet élément parce que d'une certaine manière, ça revient à notre discussion tout à l'heure, c'est-à-dire ce goût pour le patrimoine. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de gens pour valider ou trouver ça très pertinent politiquement que ce vandalisme à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Il y a eu là aussi une certaine unanimité pour s'indigner, y compris parmi les Gilets jaunes eux-mêmes. Personne n'a véritablement valorisé ce geste. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a toujours, et ça c'est très important, cet immense goût pour le patrimoine en France qui s'est développé. Regardez l'immense succès des Journées du patrimoine. Il y a une forme là de contre-mouvement quand vous cassez une partie du patrimoine. Ça s'inscrit pas seulement par du vandalisme, c'est pas simplement le goût de l'ordre, c'est pas simplement le goût de la préservation, c'est aussi que ce patrimoine aujourd'hui est beaucoup plus valorisé qu'autrefois. C'est l'immense succès dans les années 80 des Journées du patrimoine, c'est l'attention au patrimoine. On détruit plus comme on détruisait avant les années 70. Parce que le patrimoine, c'est deux choses aujourd'hui en France. C'est d'une part un intérêt général, mais c'est aussi une pratique. C'est-à-dire que si le patrimoine en France est préservé, vous parliez des monuments de 14-18, localement, c'est très souvent des petites associations qui sauvent tel ou tel monument. C'est elles, des associations totalement privées, totalement bénévoles parfois, qui s'indignent quand tel ou tel statue est déplacé, quand tel ou tel petit monument est abattu à la suite de travaux routiers ou d'autres travaux. Et donc ce goût du patrimoine qui est à la fois, on pourrait dire passif, on va visiter le jour des Journées du patrimoine, il est aussi en France très actif. Et à mon avis, aussi bien l'Arc de Triomphe que le goût de Notre-Dame, c'est pas simplement les aspects d'une France identitaire, tout ça, on peut en reparler, mais c'est aussi ce rapport au patrimoine, ce rapport au passé en tant que tel, en tant que dans un présent un peu compliqué. Le patrimoine, c'est quand même une ressource incroyablement forte pour produire du sens aujourd'hui.
Et c'est mais le patrimoine, ça. Nicolas Offenstadt, ce sont aussi des symboles et des symboles politiques. Ça peut être des symboles du pouvoir. Est-ce que dans le cas de l'Arc de Triomphe, alors je ne sais pas ce qui était dans la tête de ceux qui ont vandalisé ce monument, mais on peut aussi considérer que c'est cette dimension-là qui était visée.
Oui, vous avez absolument raison. Il y a dans l'iconoclasme aussi, évidemment, une contestation du pouvoir. Et c'est en sens aussi, on peut l'interpréter dans ce sens-là. Donc, c'est tout à fait vrai. D'autant que ça touchait non seulement un symbole qui est celui de l'Arc de Triomphe, avec sa dimension militaire, avec sa dimension nationale, mais ce qui a aussi, évidemment, sans doute inquiété, c'est que c'est un symbole très populaire et très national, qui est la tombe du soldat inconnu, qui, elle, n'a pas été, je crois, abîmée, mais qui était évidemment là. Donc ça jouait aussi sur un lieu qui, même des gens qui pouvaient avoir de la sympathie, et qui avaient de la sympathie pour les Gilets jaunes, la mémoire du soldat inconnu, c'est la mémoire du simple soldat, donc là, c'est pas le pouvoir. Et donc c'est ça aussi, c'est que les lieux sont polysémiques. Les lieux sont plusieurs sens. On peut souligner la dimension patrimoniale, on peut souligner la dimension catholique, on peut souligner la dimension parisienne, la dimension architecturale, et toutes n'ont pas la même valeur. Et c'est pareil pour l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, c'est à la fois le triomphe militaire, donc le pouvoir, l'armée, l'ordre, la violence, mais c'est aussi la mort de masse, c'est aussi le simple soldat. Et c'est ça qui est assez passionnant, c'est que selon l'orientation que vous allez donner à votre discours, selon ce que vous allez faire, ces monuments peuvent dire beaucoup de choses très différentes.
Alors, des lieux polysémiques, cette polysémie, c'est pas une spécificité française. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Quel sens donner, par exemple, à un des monuments les plus emblématiques de la Turquie? C'est à Istanbul et c'est Sainte-Sophie.
Oui, c'est une annonce qui a été faite il y a quelques semaines en pleine campagne électorale pour les municipales turques par le président Recep Tayyip Erdogan. Le temps est venu, disait-il, de refaire de Sainte-Sophie une mosquée. Une annonce évidemment polémique et politique, puisque l'ancienne basilique chrétienne orthodoxe transformée en mosquée lors de la chute de Constantinople est aujourd'hui un musée, et cela depuis l'époque de Kemal Atatürk. Alors, pour comprendre ces enjeux, j'ai interrogé un spécialiste de la Turquie, le journaliste Guillaume Perrier. Je lui ai demandé si Sainte-Sophie était un objet politique à part entière en Turquie.
Oui, oui, bien sûr, ça a toujours été le cas d'ailleurs dans l'histoire de ce bâtiment, mais c'est vrai que c'est un symbole de puissance politique, donc il faut rappeler aussi la manière dont les Ottomans ont conquis Constantinople en 1453. Sainte-Sophie, à l'époque, donc était une basilique chrétienne, et le premier vendredi après la conquête, hein, le sultan ottoman Mehmet II est allé prier dans Sainte-Sophie, et donc c'est à cette occasion qu'elle a été immédiatement convertie en mosquée. Je crois que secrètement, Recep Tayyip Erdogan, on pourra parler de néo-ottomanisme ou pas, mais se rêve un petit peu comme le sultan conquérant d'Istanbul et aimerait un jour reconvertir ce musée en mosquée.
Et cette nostalgie ottomane de Recep Tayyip Erdogan est loin d'être une anomalie dans l'histoire récente de la Turquie. Les demandes politiques pour réislamiser Sainte-Sophie sont apparues en fait dès les années 50.
Sainte-Sophie n'est restée un musée sans être contestée en tant que telle que pendant une vingtaine d'années finalement. Dès 1953, c'était l'anniversaire, le 500e anniversaire de la conquête de Constantinople par les Ottomans. Et à cette occasion-là, les partis conservateurs ont commencé déjà à formuler les premières revendications en faveur de la retransformation en mosquée de Sainte-Sophie. Donc si vous voulez, c'est une vieille histoire, c'est un vieux credo des partis islamistes et nationalistes, puisque Sainte-Sophie est non seulement un symbole chrétien, mais c'est également un symbole du monde grec. Et c'est aussi un enjeu pour les nationalistes de turquifier Sainte-Sophie pour lui ôter aussi son identité grecque, qui peut éventuellement, en tout cas dans leur esprit, être le point de départ de formulation politique de la part de la Grèce éventuellement ou du monde grec.
Alors on peut se demander si politiquement et électoralement, cette stratégie et ces revendications autour de Sainte-Sophie sont payantes dans l'opinion turque, puisqu'une grande partie de la population de ce pays peut être aussi attachée à un autre héritage, peut-être plus laïque.
C'est quelque chose de très clivant, c'est-à-dire qu'une partie de l'opinion, effectivement, qui est sensible à ces thèses nationalistes ou religieuses, va trouver, effectivement, bien qu'un président veuille reconvertir Sainte-Sophie, mais une partie, une grande partie des Turcs est également très, très opposée à ça et attaché, si vous voulez, à ce que ce bâtiment soit un musée et qu'il soit en quelque sorte ôté de tout caractère religieux. Voilà, donc même si on y appelle toujours la prière musulmane, donc c'est un petit peu paradoxal, mais il y a une grande partie en tout cas des Turcs qui refusent cette surenchère politique qui est faite autour de ce bâtiment, qui doit rester un patrimoine mondial, un patrimoine universel.
Voilà, le journaliste Guillaume Perrier, spécialiste de la Turquie, qui a publié Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. C'était l'an dernier aux éditions Actes Sud.
Une toute petite réaction, Nicolas Offenchat.
Oui, deux choses. C'est d'abord, évidemment, on sait que du côté français, l'identité de la cathédrale, c'est évidemment une identité qui est aussi parfois très exclusive. C'est-à-dire qu'on charge l'identité française de catholicisme, on le charge de cathédrale, on le charge de toute une histoire médiévale, parce qu'évidemment, on est parfois dans une attitude qui est un peu exclusive, parfois islamophobe, on l'entend d'ailleurs. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'en France, on peut avoir ces instrumentalisations de la religion au service d'une conception tout à fait exclusive et autoritaire de la nation. Et l'autre élément sur lequel je voudrais finir très court, c'est que ces monuments qui paraissent tous intangibles, en fait, ont parfois des vies incroyablement riches et très modulable. Regardez à Berlin, on partait un peu en Allemagne, on est en train de reconstruire, on reconstruit aujourd'hui le château des Hohenzollern qui avait été détruit par la guerre puis par la RDA. Donc vous voyez, c'est incroyable d'imaginer qu'on puisse aujourd'hui faire renaître un château au cœur d'une capitale. Donc il y a aussi dans le patrimoine quelque chose d'extraordinairement présent, présentiste et vivant.
Eh ben merci beaucoup Nicolas Offenstadt d'avoir participé à ce numéro de Politique. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage publié chez Stock, c'était il y a quelques semaines, Le pays disparu sur les traces de la RDA. Voilà, Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son aujourd'hui Nicolas Slimani. À 12h45, vous retrouverez la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Lundi, c'est Antoine Genton qui présentera et pour toute la semaine Du grain à moudre. Et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.